Bien, alors mesdames, messieurs, comme l'a dit Marie-Hélène, buonasera, bonsoir. Je suis très content d'être parmi vous ce soir et de concrétiser une deuxième ou troisième fois donc nos relations entre le comité de jumelage Reims-Florence et la Corfi. La Corfi est le comité de jumelage Reims-Florence. Et nous avons eu le plaisir déjà à Reims d'accueillir Marie-Hélène Viviani, qui nous avait parlé brillamment d'Isabelle Ladeste et donc de son mécénat, et d'accueillir également Gérard Lauvergeon, qui était venu nous parler du Risorgimento, justement, en 2011, où on fêtait l'anniversaire, le 150e anniversaire de la formation, de la création du Royaume d'Italie. Donc, nos liens, vous voyez, se renforcent, et bon, je suis content, je vous dis, d'être là, et apparemment, donc, j'ai l'impression qu'il y a une agréable et sympathique ambiance entre vous dans cette association. Donc, je voulais évoquer un sujet qui ne serait pas trop pointu, trop spécialisé. Et donc, j'ai eu envie d'évoquer la personnalité donc, de Giorgio Vasari, qui effectivement est connu d'abord comme historien. Bon, dès qu'on parle d'un peintre, on fait tout de suite référence à Vasari. Il a dit ceci de tel peintre, il a dit cela. Et donc, effectivement, c'est le moyen qu'on a de le connaître, mais on connaît moins finalement qu'il était architecte et qu'il était peintre. C'est bon, quand on se promène dans Florence, on voit le Palazzo Vecchio, on le visite, on en voit les fresques, on voit la galerie des Offices, mais on voit comme on l'appelle, le corridor Vasari, on sait qu'il est de lui, mais souvent finalement, donc on oublie, on voit les monuments, mais on n'associe pas forcément le monument, les Offices et les Offices, le Palazzo Vecchio avec l'artiste. D'ailleurs aussi, on le verra, il a travaillé à l'achèvement du dôme, de la décoration, donc de la fameuse coupole de Brunelleschi. Donc il a fait œuvre de peintre et il a fait œuvre d'architecte, on pourrait même dire d'urbaniste. Il a effectivement transformé la ville de Florence. Et en même temps, quand on cherche un petit peu à connaître le personnage, on découvre en fait une personnalité qui est à la fois attachante et parfois agaçante quand il parle de lui, dans ses actions, dans ses faits et gestes. Donc, une vie qui ne couvre pas tout le XVIe siècle, mais qui est quand même relativement étendue sur le XVIe siècle, puisque Giorgio Vasari, il naît en 1511 et qu'il meurt en 1574. Donc oui, il couvre quand même presque les deux tiers, les trois quarts, les deux, entre les deux, quoi, du XVIe siècle, et sa personnalité, effectivement, et presque parallèle à celui qu'il a le plus admiré, qui est Michel-Angelo, qui meurt en 1564, 10 ans avant lui. Ils sont légèrement décalés, mais ce sont en fait deux hommes du même temps, finalement, et qui se connaissaient et qui s'appréciaient. Alors, Giorgio Vasari, voyons un petit peu les débuts d'un artiste, c'est un aretin, c'est-à-dire qu'il est toscan, et il est toscan de la Toscane, on va dire, du sud. Il est de la ville d'Arezzo, et il restera toujours, finalement, attaché à cette ville. Partie de sa famille continuera à y résider, et lui-même, finalement, il résidera également quand il ne sera pas pris sur un chantier à Rome, à Venise, à Florence, à Naples, enfin bon. Et c'est intéressant, en fait, peut-être que ce lieu soit son lieu de naissance. Arezzo, c'est une ville qui se trouve en fait sur le chemin, sur la route entre Florence et Rome, finalement. C'est un lieu de passage, et on verra que finalement certains passages lui seront bénéfiques. Bon, c'est une ville qui est légèrement en déclin quand naît Giorgio Vasari. Elle a connu effectivement un développement économique assez important au XVe siècle, une ville de marchands, une ville d'échanges justement par sa situation, mais elle est un petit peu en déclin au début du XVIe siècle. En plus, elle a mal joué la carte de la politique, puisqu'elle s'est alliée aux Français quand Charles XII est arrivé en Italie pour se préserver justement de Florence, en espérant que les Français permettraient aux Arétins de devenir indépendants. Et la première chose qu'a fait Louis XII, ça a été de rendre Arezzo à Florence. Donc, bien sûr, la duplicité française, comme on disait à l'époque du côté de l'Italie, mais ça prouve qu'il y a aussi un esprit arétin, un esprit de clocher, qui sera aussi un petit peu celui de Vasari. Et c'est vrai qu'Arezzo, elle pouvait déjà s'enorgueillir d'être la ville de naissance de Guido Monaco, Guido d'Arezzo, Guy d'Arezzo, vous savez, qui a donné son nom aux notes, qui, grâce à lui, on a eu Rémi Fa Sol La Si Do, et donc à partir d'un poème consacré à la Vierge, d'un psaume consacré à la Vierge, c'était un moine, et actuellement on nous montre encore donc la maison natale de Guido d'Arezzo. Puis au fait, c'est aussi la ville de celui qui va être son contemporain, et qui n'est pas non plus un personnage à négliger, qui est l'Arétin. Bon, l'Arétin, qui est un écrivain, qui est un homme de lettres, qui est introduit dans toutes les cours d'Italie, qui est en même temps un pamphlétaire. Bon, on dit que c'était une des plus mauvaises langues d'Italie, et on le voit toujours avec des belles chaînes d'or, et on dit que ces chaînes d'or, il les obtenait par une sorte de chantage auprès des princes: je sais des choses sur vous, je peux écrire un poème contre vous, ou un pamphlet, moyennant quoi. Donc, oui, ce portrait de Titien nous montre quand même effectivement le personnage un peu truculent, un peu sûr de lui, comme ça. Bon, donc c'est aussi un autre personnage qui est contemporain de Giorgio Vasari, et qui est donc cet Arétin. Et puis on ne peut pas évidemment évoquer Arezzo, et on ne peut pas évoquer effectivement donc sans doute certains aspects de son art, sans bien sûr reconnaître que Arezzo, c'est aussi la ville de Piero della Francesca, et au moins la ville où, dans l'église San Francesco, l'église des frères de Saint François, des franciscains, se trouve donc cette série de fresques qui raconte l'histoire de la vraie croix, depuis donc Adam et qui plante en fait l'arbre dans lequel sera un jour taillée la croix, jusqu'à sa découverte par l'impératrice Hélène, la fameuse invention de la croix. Et on ne peut pas évidemment imaginer que le jeune Giorgio n'ait pas été sensible à cela. Et j'ai mis deux scènes qui peuvent effectivement parler d'inspiration, soit ce côté, donc là c'est l'approbation de la croix, hein, sur le tableau, l'élément de fresque qui est ici, où on retrouve les trois croix, hein, vous connaissez l'histoire, et il y a celle des deux larrons et celle du Christ, quelle est la bonne? Donc on procède par l'expérience, et donc la bonne croix, celle du Christ, va guérir un enfant qu'on allait enterrer, enfin même ressusciter, et qui allait mourir. Donc dans cette scène, il y a effectivement déjà tout ce que Piero apporte dans la perspective, et ce sera un élément important. Et puis dans l'autre scène, qui est la scène du songe de Constantin, le fils de l'impératrice Hélène, là on a cette scène qui est en fait une scène de nuit, où la lumière ne vient plus du soleil mais vient de la lune, hein, cette lumière froide qui pourra aussi inspirer dans certains de ses tableaux, et en particulier le portrait du jeune duc Alexandre de Médicis, qui pourra donc inspirer Giorgio Vasari. Donc il est à bonne école, il est dans une ambiance finalement qui va l'inciter à vouloir être artiste. Mais être artiste parce qu'il est aussi originaire d'une famille d'artistes, ou qui ont des liens finalement avec l'art. Ses grands-parents finalement, le grand-père de Giorgio, le grand-père paternel, était potier. Bon, potier peut-être, potier d'art, de la belle céramique comme on en faisait déjà à cette époque, d'où le nom de la famille, les Vasari, Vasaro, les Vases, ce nom qui rappellerait finalement les activités de la famille. Et donc, son père, ça c'était le grand-père. Par contre, son père, lui, avait choisi un métier plus, qu'on pourrait dire, pour nous, qui paraîtrait plus trivial, mais qui est en fait aussi une activité liée à la société de cour, puisqu'il était sellier, donc il fabriquait bien sûr tous ces beaux harnachements pour les chevaux de l'aristocratie, de la société noble, et il était en même temps peintre de cassonne et ses grands coffres de mariage qu'on offrait finalement souvent à la jeune mariée, à la jeune épouse, et il était peintre de bannières. Mais peintre de bannière, il y a aussi les grands artistes qui en faisaient, puisque dans la bottega, dans la boutique d'un peintre, on faisait tout. Chez Botticelli, on pouvait aussi bien peindre des bannières que de faire des grands tableaux d'hôtel. Donc un milieu qui est lié à l'art, et dans ce retable donc, qu'il a fait pour la Pieve d'Arezzo, il a représenté donc ses parents, Giorgio et sa mère. Donc il y a cette ambiance. Et puis il y a également un autre ancêtre, l'arrière-grand-père, Lazzaro Vasari, qui était lui aussi sans doute peintre, et dont Giorgio Vasari, dans ses fameuses vies, ses biographies, donc il en consacre une dans les premiers livres à cet ancêtre, donc Lazzaro Vasari, Pittore Aretino, donc Aretin. Et puis il y a encore des liens finalement familiaux, puisque, et c'est pas négligeable non plus, Luca Signorelli, donc le grand peintre Luca Signorelli, qui vous voyez dans des scènes comme celle-ci, la résurrection des morts, qui se trouve à Orvieto, à la cathédrale, dans la chapelle San Brizio, donc nous apparaît vraiment comme un peintre possède les canons de la Renaissance, hein, ce travail sur le corps humain, ce travail sur l'anatomie, tous ces personnages qui ressuscitent et qu'on retrouve donc dans des positions qui rappellent les sculptures antiques, les sculptures grecques ou gréco-romaines, le contrapposto en particulier, hein, on dit toujours être regardé ces jeunes gens là, ce personnage qui a ce que les maniéristes vont appeler la linea serpentina, la ligne serpentine, enfin c'est toute une série ici de beaux nus. Alors, vous voyez, il ressuscite, ce sont d'abord des squelettes, hein, qui sortent des tombeaux, puis c'est la résurrection de la chair, petit à petit ils reprennent finalement donc leur corps. Et il y a tout de même quelque chose de rassurant dans la résurrection de Luca Signorelli. Quand on reprend son corps, on a des corps jeunes et beaux. Et donc ça, c'est pas négligeable. Et finalement, alors que d'un autre côté, dans ces fresques, il y a le jugement dernier, où il y a les scènes extrêmement violentes de l'enfer, il y a là finalement ces gens qui ressortent comme étant passé dans la fontaine de jouvence. Donc, tout ça pour dire que Luca Signorelli, en fait, c'était un grand-oncle de Vasari. Vasari, donc, avait ce fameux grand-père Giorgio, qui avait une sœur, finalement, et Signorelli était l'enfant de cette sœur. Donc, il y a là aussi un grand ancêtre, si je puis dire, une grande référence, peut-être, même plus importante que les Vasari eux-mêmes, bon, qui ne sont que des artistes locaux, avec la personnalité de Signorelli. Et une personnalité dont on pourrait se demander si elle n'a pas un petit peu renforcé son goût d'être un artiste, s'il avait besoin de cela. Il se trouve qu'il le rencontre. Il a 8 ans, et donc dans la vita de Signorelli, il dit « J'étais alors un petit garçon de 8 ans, et je me souviens que ce bon vieillard, affable et soigné, ayant appris du maître d'école que je passais mon temps en classe à dessiner, je me souviens donc qu'il se tourna vers mon père Antonio et lui dit « Antonio, puisque le petit Giorgio tient de la famille, fais-lui apprendre le dessin, car même s'il continue à travailler les lettres, le dessin ne peut que lui être utile, comme à tout homme bien élevé, et lui apporter honneur et satisfaction. » Puis se tournant vers moi, qui m'était planté devant lui, il me dit « Travaille, petit cousin ». Il dit encore beaucoup de choses à mon propos que je tairai, car je sais que je n'ai pas confirmé l'opinion de cet excellent maître, bon, fausse modestie de Vasari, de cet excellent maître sur moi. Ayant appris que je saignais souvent du nez, au point de perdre connaissance, il me mit au cou de sa propre main une pierre de japs avec une merveilleuse gentillesse. Le souvenir de Lucas restera à jamais gravé dans ma mémoire. Donc, bien sûr, il y a cette rencontre qui est si importante pour ce petit garçon de 8 ans, de ce bon vieillard soigné, comme il dit, bien mis, et qui lui fait ce présent donc de la pierre de japs, et qui l'incite donc à devenir un artiste et à cultiver le dessin. Donc vous voyez, c'est un gros plan sur les personnages qu'on a vus tout à l'heure, avec bien sûr en plus cette force, travail musculaire, parce qu'en même temps il s'extrait de la terre, il ressort, il y a cet effort pour ressortir d'où ils viennent, pour la résurrection de la chair, qui nous montre donc comment Signorelli était en même temps donc un anatomiste de qualité. Donc voilà à peu près cette ambiance. Et pour finir, pour évoquer d'autres artistes, il faut évoquer aussi donc celui qui sera donc quasiment son premier maître, qui s'appelle Guillaume de Marcilla. Guillaume de Marcilla, c'était un maître verrier qui était originaire du Berry. Il était français, comme son nom l'indique, et il travaillait donc à Arezzo pour les vitraux de la cathédrale. Et donc ses parents l'ont placé comme jeune apprenti, pour apprendre le métier, tout au moins le dessin, puisque vous voyez aussi comment Guillaume de Marcilla est un artiste de la Renaissance dans son traitement du corps du Christ, là aussi comme une statue antique, dans le mouvement finalement de Saint Jean-Baptiste vers le Christ, les drapés rouges de la tunique. Donc son premier maître, Guillaume de Marcilla, donc après les ancêtres et après la rencontre avec Luca Signorelli. Mais peut-on finalement être un artiste important à Arezzo, ne risque-t-on pas d'être comme ses parents, des artistes locaux? Et il se trouve que, comme dans un conte, il y a une autre rencontre importante, c'est la rencontre avec le cardinal Silvio Passerini. Ce cardinal venait de Rome, donc sur la route, il s'en allait à Florence, il s'était lié d'amitié dans sa jeunesse avec Giovanni dei Medici, le futur pape Léon X, et là Léon X l'envoyait pour être le précepteur des jeunes ducs, Alexandre de Médicis, donc celui de la pièce de Musset, et Ottaviano. Et il passe à Arezzo, il rencontre le petit Vasari, il le voit dessiner, et il dit « Non, mais cet enfant a du talent, et je vais l'emmener avec moi à Florence ». Et donc, comme une bonne fée, le cardinal Passerini emmène donc le jeune Giorgio Vasari à Florence, où il sera élevé, éduqué finalement à la cour des Médicis avec Alexandre et Ottaviano. Donc ce cardinal, qui lui-même, d'ailleurs c'est aussi un autre conte, était issu d'un milieu très simple, mais avait été reconnu et apprécié par le jeune Giovanni dei Medici, donc avait réussi à faire sa carrière chez les Médicis. Donc voilà, autre rencontre et autre élément qui va mettre en fait le pied à l'étrier de Vasari. Et à Florence, donc, il se crée une autre amitié, et une amitié qui va durer tout le temps que l'un et l'autre vivront. Et vous voyez que Salviati meurt en 1563, donc 11 ans avant Vasari, donc une forte amitié avec Francesco Salviati, qui est donc quasiment son contemporain, 1510, Vasari 1511. Il travaille à Florence, et c'est un de ceux qu'on va considérer comme un des grands peintres maniéristes finalement de l'époque, et en même temps un grand portraitiste, et qui va travailler avec Vasari. Ils vont échanger des idées, échanger leurs cartons, etc., quand ils travailleront au Palazzo Vecchio, à la décoration, donc les nouvelles fresques du Palazzo Vecchio. Vasari donc, et Salviati sont des amis, une amitié. Bon, il y aura peut-être de temps en temps des petites brouilles. Donc vous voyez, l'autoportrait que je vous ai montré, en fait, il est ici. Vous voyez, il s'est représenté, il y a un petit cas, mais on ne le voit pas très bien, il s'est représenté donc dans ce triomphe de Camille, dans cette grande fresque auquel il a participé, donc au Palazzo Vecchio. Donc voilà à peu près l'ambiance de ces premiers temps, de ces premières années. Et j'ai mis quelques tableaux justement de Salviati pour voir ce qu'était cette peinture maniériste de l'époque et pour voir comment Vasari va travailler à peu près de la même manière, c'est-à-dire cette recherche chez les maniéristes, la maniera, c'est la bonne manière de peindre. Et la bonne manière de peindre, c'est la manière de Michel-Ange, puisque toute la peinture pour Vasari, elle n'a qu'un but, elle n'a eu qu'une direction, c'est d'arriver à la perfection avec Michel-Ange. Donc, ici, cette maniera de Michel-Ange de reprendre un peu ses personnages, mais en même temps, comme un poète joue dans la poésie avec les mots, avec les phrases, les transforme, joue avec, donc il va y avoir ce jeu des maniéristes, c'est-à-dire de forcer le trait, de déformer les corps, d'insister justement sur ce caractère serpentin des personnages, parfois même de déplacer la scène principale dans le fond, pour mettre des grands personnages comme ça au premier plan, dans un jeu un petit peu crypté. Et donc, si on peut dire que Salviati est un peintre maniériste, Vasari sera également, comme lui, un peintre maniériste. Vous voyez, cet autre aspect des maniéristes, quand ils font s'intéressent à l'architecture, donc un escalier droit et classique, c'est pas dans l'esprit d'un maniériste, mais au contraire, vous voyez, ce jeu d'architecture un petit peu délirant. Et puis le fait que le personnage, la scène est presque cachée. Bon, c'est Bethsabée qui se rend chez David, mais à la limite, elle est quasiment très très éloignée, elle n'est plus au centre du tableau. La scène est à chercher, est à deviner, avec donc ce jeu vertigineux de l'architecture et de l'escalier. Donc, si vous voulez, ce sera un élément important sans doute de l'œuvre de Vasari et ses premières œuvres quand il est à Florence, quand il est chez les Médicis, mais où à cette époque il n'a pas de grande fonction officielle. En plus, les temps sont troublés. Les Médicis ont été chassés de Florence. Il y a eu la République. Ils reviennent. Il y a eu après l'assassinat du duc Alexandre. Donc une situation de violence et de tension. Donc il finit par ne plus trop se plaire chez les Médicis. Mais il réalise à cette époque quelques œuvres où on voit déjà ce côté maniériste, un petit peu avec ce personnage au premier plan, justement, qui nous tourne le dos, qui décale un petit peu la scène vers l'intérieur, et puis la scène qui va se poursuivre tout en haut, la mise au tombeau, elle se termine loin, très, très loin de nous, si vous voulez, il y a deux temps dans l'histoire, et où on sent aussi qu'évidemment, Vasari a connu et suivi les leçons de Raphaël. On est proche aussi du spasimo de Raphaël. Mais quand on prend la toilette de Vénus, aussi de la même époque, vous voyez la proximité avec son ami Salviati et toujours ce jeu, vous voyez, d'un corps en S, cette ligne serpentine, ce caractère déséquilibré finalement des personnages. Ce côté un petit peu caché aussi, le visage de Vénus, il faut bien regarder, qu'on retrouve dans le miroir, le specchio, et puis donc tout le jeu de la symbolique, bien sûr, autour des personnages, donc de l'eau de la purification, de Vénus couronnée par les, par l'amour, bien sûr. Donc, c'est ces premières œuvres. Et qu'on peut également, vous voyez, mettre dans le même série, dans le même mouvement, Bronzino, qui lui aussi va travailler pour les Médicis avec ce triomphe de Vénus. Là encore, avec ce travail sur les corps, sur les postures, vous voyez, déformées, rien moins que naturel, de ce petit Eros, vous voyez, qui est tout déplié, replié, ce geste vers le sein de Vénus, cet enlacement finalement des bras et des corps. Bon, donc c'est je mettrai encore cette dernière œuvre où on retrouve donc toujours cette tension. Bon, en fait, ce Saint Jérôme, il est dans la même position que la Vénus précédente, quasiment. Mais transposé, bien sûr, dans une œuvre religieuse. Mais finalement, les choses ne vont pas très très bien. Je vous ai dit, dans cette Florence qui n'est pas calme, qui à la fin ne le satisfait plus, et il envisage finalement donc de partir, de quitter. Et d'aller essayer de gagner sa vie indépendant, artiste errant, surtout qu'il a besoin également de trouver de l'argent. La situation de sa famille à Arezzo n'est pas très bonne, il a des sœurs à marier, il faut constituer des dots, les parents ne peuvent pas toujours y subvenir. Donc le jeune Giorgio pense qu'il est temps à un moment donné de circuler en Italie comme beaucoup d'autres artistes. Et en fait, entre 1537 et 1554, où il va revenir définitivement chez les Médicis, donc il est un artiste indépendant. Il dit, dans la dernière vie des vies, il la consacre à lui-même, hein, il écrit une vie de Giorgio Vasari, où d'ailleurs il parle de Giorgio Vasari en disant « il a fait ceci, il a fait cela ». Mais là, tout de même, il emploie le style plus direct. Il dit « je décidais, conseillé par Messire Ottaviano, donc de Médicis, de ne plus m'attacher au destin des cours, mais uniquement à l'art, bien qu'il m'eût été facile de me mettre sous la protection du seigneur Cosimo dei Medici, le nouveau duc ». Donc, toujours aussi le besoin de se faire valoir, de s'affirmer. Le duc aurait voulu de lui, mais c'est lui qui décide de partir. Donc, vous voyez, on pourrait sur une carte faire ses allées et venues. Donc, il va aller à Bologne. De Bologne, il va aller à Venise. Mais en allant à Venise, il va s'arrêter à Mantoue, par exemple. Et à Parme. Donc, et à Modène. Alors, Modène, Parme, Mantoue, où il découvre le Corrège. À Parme, Garofalo, à Mantoue, Giulio Romano. Enfin, c'est tout cet itinéraire qui marque ses débuts. Donc, quand il est à Bologne, il va être chargé par des moines, des dominicains, de réaliser une série de tableaux autour de repas ou de banquets, entre guillemets, célèbres dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, qui préfigurent la scène ou qui reprennent finalement le thème de la scène à travers le temps. Et parmi ses œuvres, donc, il va représenter le repas de Saint Grégoire, c'est-à-dire donc Grégoire le Grand, Grégoire Ier, le pape donc du 5e siècle, 6e siècle, et qui avait à sa table fait venir des nécessiteux, des malheureux, des mendiants, et avait plus ou moins renouvelé le geste du lavement des pieds, et en même temps donc fait œuvre de charité. Donc c'est une de ces séries de tableaux. Évidemment, le pape Grégoire est représenté, parce qu'il a toujours un peu le sens aussi des gens auxquels il faut penser, sous les traits du pape Clément VII, c'est-à-dire un Médicis, le deuxième Médicis après Giovanni, c'est-à-dire celui-là, c'est donc Giuliano de Médicis, donc le pape Clément VII. Donc il va réaliser une série donc pour le réfectoire donc des moines où on voit donc évidemment déjà ce qui deviendra ses habitudes. Vous voyez, on retrouve les escaliers là, un petit peu, et ces grandes architectures dans le style de Savietti. Toujours ce personnage au premier plan qui nous sert en même temps de lien. Il nous tourne le dos, mais on ne voit que lui. Et petit à petit, on est évidemment contraint d'aller vers la scène importante, vers la scène du repas. Puis ces personnages ici, mais qui semblent être venus de chez Véronèse, bon, qu'on va trouver aussi chez Véronèse dans les noces de Cana en particulier. Bon, donc, et puis bien sûr des figures de moines, puisque ce sont eux les comment dire, c'est des bénédictins, c'est pas des dominicains comme je vous l'ai dit. Et puis donc l'autre tableau de cette série, bon, c'est juste pour les signaler, voir un petit peu. C'est évidemment, le décor est différent parce que tout à l'heure c'était un festin public, enfin à la cour du pape. Ici, théoriquement, c'est une scène intime. Le Christ est chez Marthe et Marie, est reçu dans la maison de Marthe et Marie, donc avec les deux sœurs, c'est celle qui se jette aux pieds du Christ, babille, etc. Et puis l'autre qui est au fourneau, bon, et qui fait un peu des reproches au Christ. Et puis, il y en aura encore deux ou trois autres dont je n'ai pas ici les représentations. Alors donc ça, c'est à Bologne. Donc il passe par Parme et Ferrare, parce que Garofalo, c'est un peintre ferrarais, mais là, il le rencontre à Parme, et donc il voit une autre qui est différente et proche façon de peindre. Ici, donc, c'est la peinture mythologique, c'est le grand genre de la peinture mythologique, donc l'allégorie de l'amour, donc cette renaissance qui était à la fois chrétienne par certains côtés, vous voyez, et bien sûr païenne, ce triomphe du paganisme humaniste ou de l'humanisme païen, avec la glorification des corps, bien sûr, et avec un travail sur le paysage également. Donc, Garofalo, il est un petit peu oublié maintenant, mais enfin, dans la région de Parme, en Émilie-Romagne, à Ferrare, dans le musée du Palais des Diamants, il y a beaucoup d'œuvres de cet artiste, finalement, qui est plus qu'un artiste local, mais que nous, côté français, on connaît moins. Et puis donc, ça va être aussi, comme je vous l'ai dit, le long de son chemin, aussi la rencontre du Corrège, des œuvres du Corrège, dont la vie a été courte, mais il rencontre donc cet hymne à Vénus et à l'amour, dans ces genres de clair-obscur également du fond de la forêt, sur lequel se détache bien sûr le corps très blanc de Vénus. C'est toujours ces corps qui semblent s'emboîter, finalement, le petit amour, l'une est concave, l'autre est convexe, enfin bon, ce jeu sur les courbes, sur les formes. Donc, tout cela, son voyage est bien sûr en même temps un voyage initiatique. Il veut rencontrer des œuvres de gens célèbres, soit qu'ils viennent de mourir, ou soit qu'ils sont encore en activité et en grande activité. Et on peut se demander si ce n'est pas déjà au cours de ce voyage qu'il fait, de ces années d'errance, que peut germer finalement cette idée d'écrire les vies des artistes. Et qu'il a sans doute déjà commencé à prendre des notes, à s'informer, puisque certaines vies sont extrêmement précises, où il nous dit dans telle église de telle ville, il y a telle œuvre. Et là, on sait que c'est des œuvres qu'il a vues. Plus tard, dans la deuxième édition, il utilisera des gens qui lui enverront des informations. Mais dans la première édition, c'est-à-dire 1550, vous voyez, c'est-à-dire au moment où il est en train de faire son tour, donc où il a pu rencontrer les artistes, et il a pu être confronté donc à ses œuvres. Et la grande figure, finalement, à part Michel-Ange, bien sûr, c'est cet élève de Raphaël, qui est donc Jules Romain, enfin nous on l'appelle Jules Romain, Giulio Romano, parce qu'il a beaucoup travaillé à Rome, Il a achevé la fameuse chambre du Vatican quand il était successeur, en fait, élève puis successeur de Raphaël, et où il a décoré d'une façon hallucinante, finalement, et complètement débridée, le Palazzo del Té, le palais du Té à Mantoue, pour le duc François de Gonzague. Où là, tout pour Giulio Romano, tout lui a paru être possible, enfin, cette salle des géants, dont la voûte, on ne sait même plus que c'est une voûte, et on ne sait pas non plus si c'est pas un dôme avec une lanterne au milieu, en fait c'est simplement la voûte de la pièce arrondie, donc où il va représenter ici l'apothéose de Zeus, donc avec tous les dieux dans toutes les position possible, vous voyez, dans ce mouvement aérien qui tourne autour de l'aigle de Zeus qui est là, qui domine, bien sûr. Et puis, en y regardant, puisque l'iconographie maintenant est fixée, hein, on peut reconnaître, bien sûr, tous les dieux. Donc, Zeus est descendu de son trône, là, il est là, avec sa foudre. Et puis donc, Junon, Héra, aux côtés de lui, et puis vous le reconnaissez, un vieillard avec sa faux, le temps, là-bas avec son casque, Mars, enfin il faut évidemment faire tourner autour de la pièce. Donc ça c'est le triomphe du maniérisme. Donc dans une autre pièce, là encore sans ouverture, juste l'âtre en bas, donc la chute des géants, donc qui tombe depuis la voûte, et dans tous ces mouvements qui sont en même temps comme une sorte de, comme Michel-Ange le peindra à la Sixtine, pour en même temps un jugement dernier, mais qui sera un jugement dernier païen, où ce sont les géants qui sont précipités du haut de l'Olympe. Donc il sait tout faire, Giulio Romano, et c'est sûr, allez au palais du Té, et vous verrez, c'est surprenant. Il peut aussi faire, donc dans la salle de Psyché, le banquet de Psyché, donc cette fois, aller dans une sorte d'érotisme élégant, mais bon, qui ne se cache pas pour autant, enfin bon, des bacchanales, de fêtes, vous voyez, avec les pans, les satyres, donc dans une pièce de réception du palais d'un prince, bon, dans une époque quand même, où d'un autre côté commence à percer la réforme. Bon, c'est sûr que des œuvres comme ça, dans une période où on va commencer à se poser des questions d'un autre côté, mais ça c'est la belle Renaissance, tout ce qu'on voudra, bon, enfin, comme on l'aime. Et donc il réalise donc quand même pendant sa pérégrination des œuvres, en particulier cette représentation de l'Immaculée Conception qu'il réalisera à plusieurs reprises. Donc ça c'est la première version qui est assez étrange en fait, donc extrêmement maniériste. Donc la Vierge, elle est tout en haut de l'arbre du bien et du mal, donc avec le serpent qui s'enroule donc autour de l'arbre, et la Vierge qui est au-dessus donc de cet arbre du bien et du mal, et en bas donc les corps nus de Adam et Ève. Donc en fait la symbolique c'est la Vierge nouvelle Ève, mais Ève elle est déchue, et la Vierge c'est évidemment la préfiguration de l'Église triomphante, de la nouvelle Ève qui elle va effacer le péché originel. Elle est Immaculée Conception, représentée par Adam et Ève qui sont ici, vous voyez, et où sont représentés également, on le voit mieux dans le tableau qu'il fera un petit peu plus tard, où il y a aussi dans ces personnages entassés Abraham, Isaac, les principaux personnages importants du début de l'Ancien Testament, donc Abraham, Isaac, Jacob, donc qui sont là, l'Ancien Testament d'un côté, et puis donc le Nouveau Testament avec la Vierge. Donc là, c'est une œuvre à la limite à portée théologique, finalement, qui est présentée dans cette Immaculée Conception. La version qui fera plus tard, où il y aura une banderole, un genre de phylactère qui dit « Je suis celle qui a effacé le péché d'Ève bon, », où les choses là sont dites et sont écrites clairement par rapport à cette première version. Mais sinon, rien n'y change vraiment. Donc pour les Camaldules, donc la région de Florence, il représente donc cette descente de croix. Donc là aussi, il y a tout ce qu'un peintre maniériste peut mettre, et qui nous montre aussi peut-être le fait que parfois Vasari peut être aussi un artiste un petit peu laborieux, qui veut trop bien faire et qui veut mettre tout ce qu'il sait pour prouver, si vous voulez. Bon, vous voyez tous ces personnages qui sont entassés avec toutes sortes de positions qui rappellent l'Antiquité. Et bon, aussi bien ici, Saint Jean, en jeune orateur à l'Antique, la Vierge ici, à demi allongée, comme on représente les figurations des fleuves ou des rivières dans la sculpture hellénistique. Et puis, donc, c'est, là aussi, cette tension compliquée des personnages qui sont sur l'échelle pour retenir le corps du Christ. Vous voyez, ils sont en déséquilibre. Celui-là qui a les deux pieds qui descend l'échelle par devant, si vous voulez. Celui-là qui est maintenu par un autre, qui tient les jambes du Christ. Enfin bon, tout ça n'est pas très, très assuré. Et un petit côté, en même temps, Rosso Fiorentino, qui n'est pas à négliger. Puis il met du paysage en même temps, vous voyez, pour... voilà, ça c'est aussi la façon de faire, la façon d'agir de Vasari. En même temps, annonciateur des grands baroques, des grands maniéristes plus tardifs, il y a déjà un petit peu du Caravage dans cette scène de Judith et Holoferne. Donc voilà, à peu près. Alors la résurrection, là, c'est quasiment la reprise d'une œuvre de Salviati, hein, cette œuvre nerveuse, animée, agitée. Là, on voit bien que le Christ est ressuscité. Il sort et puis on a l'impression qu'il n'a pas une minute à perdre. Hein. Il est au bord du tombeau, il bénit, il s'élève. Et évidemment, d'un autre côté, les soldats endormis qui sont un peu aussi parfois semblent tirer de tapisserie de Giulio Romano, l'histoire de Scipion. Donc Giorgio Vasari, peintre maniériste, on le trouve donc dans cette période d'errance. Alors voyons, on l'a vu, il montait, il allait jusque Venise, mais il passait par Bologne, par Modène, etc. Puis après, donc il va redescendre dans le royaume de Naples. Dans le royaume de Naples. En plus, sa réputation commence à venir et il ne s'est pas toujours refusé un contrat. Bon, il y a toujours aussi, ses besoins familiaux et puis le besoin d'être connu. Et donc, avec deux assistants, Raffaellino del Colle et Stefano Veltroni, il va travailler à ce réfectoire donc de l'église Sainte-Anne des Lombards. Vous voyez, réfectoire, ça veut dire aussi que certains ordres monastiques d'une ville qui l'ont fait travailler, évidemment, passent l'information à un autre abbé du même ordre, en disant, tiens, Vasari, il fait quand même des choses si tu as besoin, enfin bon. Et donc, petit à petit, de couvent en couvent, donc, sa renommée allant grandissant, il est invité à aller travailler, vous voyez ici, jusqu'à Naples, avec cette décoration qui s'inspire en fait de Raphaël, hein, des fameux grotesques de Raphaël qui s'était inspiré lui-même des fresques de la maison de Néron qu'on venait de redécouvrir. Et puis, bon, le temps allant, il décide quand même, parce qu'il est aussi un petit peu sollicité, et puis donc... l'oubli venant des déceptions du temps des Médicis, peut-être, il revient donc à Florence, et là il va passer au service donc des Médicis. Il va devenir l'artiste des Médicis, et il va être donc le peintre de Cosimo, qui vit de 1519 à 1574, et de Francesco, François Ier, Francesco, qui est duc donc de 1574 à 1587 et qui était né en 1541. Donc les premières œuvres qu'il fait comme peut-être entrée en matière, introduction, c'est un portrait donc de Laurent le Magnifique. Bon, un portrait évidemment imaginaire, puisque Laurent est mort depuis 1492, mais donc il imagine d'après d'autres portraits et qu'il représente comme ça, non pas vraiment en prince, mais plutôt en homme proche des philosophes, qui porte simplement un habit simple, qui est presque l'habit des marchands finalement, dont il est issu, avec la grosse scarcelle, la aumônière, vous voyez, bon. Ici, donc un homme privé finalement. Mais Laurent a toujours été un homme privé, il n'a jamais eu de fonction officielle. C'est ça la complication du fonctionnement de la Florence de la fin du XVe siècle. Et dans la première période où il avait été à Florence, il avait réalisé ce portrait d'Alexandre que j'aurais pu vous montrer tout à l'heure. Quand il était donc élevé avec ce fameux Alexandre de Médicis, où là, effectivement, on a vu tout à l'heure la scène de Piero della Francesca, où il y avait la lune qui jouait sur Constantin endormi. Et là, évidemment, puis les cuirasses, c'est facile, et ça permet aux artistes quand même de montrer leur habileté, de faire jouer finalement la lumière sur les différentes parties de la cuirasse du prince. Alexandre qui veut d'ailleurs se montrer non pas en prince humaniste, mais en prince guerrier, combattant, portant une armure. Et en rendant effectivement ce côté un peu moro qu'avait cet Alexandre, qui avait les cheveux frisés, qui avait le teint très, très, très brun, très, donc, et qui est assassiné donc en 1537, au moment où il va partir. Et bien sûr, donc il va passer au service de, surtout, Cosimo, Côme Ier. Donc Côme Ier, c'est le jeune, quasiment enfant, adolescent, qui est choisi pour être duc par Charles Quint, par les Espagnols, à la mort d'Alexandre de Médicis, après l'assassinat donc d'Alexandre par ce fameux petit cousin Lorenzo de Médicis. Et donc Cosimo Ier, qui avait été élevé à la campagne presque secrètement, presque caché par sa mère Marie Soderini, et qui était le fils de Giovanni delle Bande Nere, Jean des Bandes Noires, qui avait été donc un sorte de condottiere, mais plus moderne si vous voulez, qui s'était battu aux côtés des Français pendant les guerres d'Italie. Donc ce genre des bandes noires, personnage assez mythique, assez mystérieux. Et je ne sais pas si vous avez vu un très beau film d'Ermano Olmi qui s'appelle, ben voilà, que le titre va évidemment m'échapper, bon mais ça me reviendra, le métier des armes. C'était il y a 3-4 ans, et qui, justement, dans des teintes, un petit peu comme celle du Vasari, là, du duc Alexandre, rendait l'histoire de ce genre des bandes noires et de sa mort héroïque. Donc Cosimo, que les Espagnols avaient placé sur le trône en pensant que c'était un enfant timoré, élevé donc loin de la ville, etc., va se révéler finalement un prince extrêmement énergique, extrêmement dur, et va faire de Florence finalement un grand-duché de Toscane, un état avec lequel il allait falloir compter, et qui va vouloir en même temps être un prince mécène et vouloir faire de Florence justement une capitale artistique, une très belle ville qui serait rivale de Rome, la pauvre Rome qui en 1527 a été ravagée par les troupes de Charles Quint, le fameux sac de Rome, et donc qui était quand même un tombé, et donc il va vouloir transformer la ville, et donc Giorgio Vasari, ça va être donc une de ses fonctions, et là on va trouver l'architecte des Médicis, c'est-à-dire donc construire pour le plus grand profit du prince, et déjà donc réformer l'administration, remettre de l'ordre dans l'administration de Florence. Et pour cela, donc, le duc veut regrouper toutes les magistratures, toutes les activités autour du Palazzo Vecchio. Les Médicis sont émigrés, ils n'habitent plus le Palazzo Vecchio, ils habitent le Palais Pitti comme résidence donc privée. Le Palazzo Vecchio n'est plus qu'un lieu de pouvoir. Et donc, les magistratures éparpillées un petit peu dans la ville, le duc veut les regrouper dans un bâtiment qui sera effectivement en même temps à Sainte-Loire. Donc, dans ce quartier, donc là vous reconnaissez le Palazzo Vecchio, vous reconnaissez la fameuse Loggia d'Orcagna, hein, qu'on appelait la Loggia dei Lanzi, où se tenaient en fait les hallebardiers du duc. Donc là derrière se trouvait un quartier extrêmement populaire de gens pauvres, de petits artisans ici. Alors c'est intéressant parce qu'on voit ce tableau de Vasari, cette fresque pour le musée, pour le Palazzo Vecchio, il nous donne l'image de ce qu'était cette place avant qu'il ne réalise la galerie des Offices. Donc le duc Cosimo va décider de créer donc un ensemble de bureaux Offizi pour regrouper toutes les magistratures dans cet espace qui descend jusqu'à l'Arno et qui était en fait un monde de petits artisans pas très riches, assez malheureux, dont on va effectivement donc raser les maisons pour établir la construction de Vasari. Donc là, oui, j'ai fait un gros plan bon, qui nous donne un petit peu, évidemment, c'est pas très précis, cette idée donc de l'entassement que Vasari va détruire, un peu comme plus tard Haussmann dans le Paris. Bon, donc ça va être effectivement assez difficile parce que ces gens sont pauvres. Et que le duc n'a pas d'argent, en plus, alors il a décidé, et ce Cosimo, que ces gens-là seraient dédommagés de leurs petits biens, mais qu'on ne les dédommagerait pas tout de suite. On les dédommagerait plus tard avec un intérêt de 5%. C'est-à-dire que ces gens-là étaient contraints, finalement, de financer la construction des Offices, sans savoir si un jour il serait vraiment remboursé avec les 5%. Donc c'était faire d'eux des associés de la construction, mais en même temps c'était les ruiner. Et on a de la correspondance de gens qui écrivent au grand-duc qui disent qu'ils n'ont plus pas d'argent, que c'est pas possible, que c'est une honte. Mais toujours est-il que on va construire finalement à crédit cette galerie des Offices, donc qui a pour but de regrouper donc 13 ce qu'on appelle magistratures, donc non seulement des magistratures judiciaires, mais également des maisons des corporations qui étaient un petit peu éparpillées. Et donc Giorgio Vasari est chargé de réaliser cela. Donc il va partir d'un module de base qu'il va reproduire donc dans cet ensemble. Donc cet ensemble, c'est en fait une sorte de grande place très longue qui part donc du Palazzo Vecchio jusque vers l'Arno. Et donc de chaque côté, les bureaux seront construits pour recevoir les magistratures. Lesquelles magistratures d'ailleurs sont invitées à payer les frais de la construction. Bon, ils seront hébergés, ils auront des beaux bureaux, etc., mais ils seront contraints de payer leur emplacement. Donc vous voyez, le module, il est relativement simple, c'est ce qu'on voit finalement sur cette partie-là, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois, un ensemble de, donc, 1, 2, 3, 4 niveaux, enfin, donc, un niveau important au rez-de-chaussée, un autre niveau plus réduit et également deux autres. Et chaque module donc va comprendre, vous voyez, cet ensemble de trois fenêtres. Et donc chaque magistrature a cette représentation, ce système finalement, donc d'une entrée assez belle, assez monumentale, avec deux colonnes ioniques. On veut en même temps l'élégance, que ce ne soit pas trop dur finalement cet ensemble-là. Et donc, le module, en fait, il fait à peu près... alors, c'est évidemment, les mesures, elles étaient en brasse. La brasse, c'était la mesure de base qu'utilisait Vasari. Donc, en gros, ces mesures, ça fait à peu près 14,6 mètres de... parce que je vous le dis en mètres... parce qu'en brasse, ça ne nous dirait rien. Enfin, la brasse, c'est la longueur d'un bras, en fait, à peu près. Donc, il faut... Oui, la brasse. Donc, transformer, donc 14 mètres et demi à peu près sur 11 mètres. Et chaque module, donc, comprenait... donc en bas une sorte d'atrium, de vestibule plus exactement, qu'on appelait finalement l'audience, qui était une sorte de salle de réception, donc où les gens qui avaient des choses à faire venaient, étaient reçus. Et puis après, donc, il y avait au-dessus un secrétariat, une chancellerie et finalement les bureaux. Et... Bon, ben voilà, il est parti. La mezzanine qui est ici, donc, servant pour les archives. Voilà. Donc, le système donc accueil, archives, secrétariat. Mais je peux y aller comme ça, tu vois.
Ce soir. C'est fatigant.
Non. Donc on le voit peut-être mieux, vous voyez, de cette vue de face. Donc, alors après, bien sûr, au XIXe siècle, vous voyez ici dans les niches, on mettra des statues de tous les grands artistes, écrivains ou peintres. Oui, c'est ces statues qu'on aperçoit, mais bon, elles ne nous intéressent pas pour l'instant, donc Brunelleschi, Giotto, enfin bon. Donc voilà, un modello, c'est-à-dire un module, un modello, c'est, comment on traduirait ça en français, c'est une maquette finalement, qu'avait conçu Vasari dans un premier temps, mais vous voyez qu'il n'y avait que deux arcades, etc., et puis en fait le projet réalisé. Donc, bon, maintenant c'est un musée. Donc voilà, si on fait une coupe, à peu près la façon dont ça se présentait, avec parfois des modifications, mais on voit donc, en même temps, bien sûr, avant de rentrer dans le vestibule, il y a donc une galerie, un portique, qui est donc de tradition antique. Donc là, l'étage des archives, il est un peu caché sur ce dessin. Mais voilà à peu près donc ce système qu'a conçu et que nous voyons toujours donc Giorgio Vasari. Oui, donc cette élégance, dans la continuité avec en même temps ce jeu. Bon, c'est des horizontales effectivement qui dominent finalement, mais la monotonie, elle est aussi rompue par le fait que ici on a effectivement des frontons très Renaissance, mais certains sont en demi-lune, d'autres sont en triangle. Donc c'est tout le vocabulaire finalement qui est repris. Donc là on le regarde depuis le Palazzo Vecchio en allant vers l'Arno, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est le côté où on sort des offices donc de la galerie. Et puis, comme les Médicis habitent le palais Pitti et que leurs bureaux sont Palazzo Vecchio, et que le grand-duc n'a pas toujours envie, Cosimo, de traverser Florence à pied, alors, est-ce qu'il craint? Est-ce que c'est plus pratique d'aller à pied de chez lui à ses bureaux? Toujours est-il qu'il va demander à Vasari de concevoir un corridor, un couloir qui lui permettrait d'aller à pied avec sa cour du Palazzo Pitti aux offices, donc aux bureaux, et au Palazzo Vecchio. Donc c'est assez extraordinaire. Vasari va concevoir donc ce long couloir, cette longue galerie ouverte de percées de fenêtres. Donc c'est juste un couloir qui repose donc sur des loges, hein, ça fait comme des petites loges, enfin, ou sur une loggia, ou sur un portique, enfin sur une galerie ouverte. Et donc rien ne, ne, ne résiste, ou presque. Il sera construit très, très vite, hein, en quelques mois, en 1565. Et donc, il est sur des arcades qui sont larges de 3,30 m. Et en fait, il a quelque chose d'un peu inquiétant quand même. Un historien dit que c'est un chemin de ronde métaphorique, d'une certaine façon. Et Robert Le Mollet, qui a écrit une biographie de Vasari, dit « Une menace diffuse, hein, c'est une menace diffuse, ce couloir, car on ne sait jamais si le prince est passé, s'il est absent, s'il surveille ou ne fait que traverser. Où est le prince ?» Ah, voilà, là, c'est cette inquiétude finalement qui correspond un petit peu aussi à ce caractère de Cosimo. Donc, il part donc, à partir d'ici, on quitte les offices. Donc, on longe l'Arno, on passe sur le Ponte Vecchio, parce qu'il faut bien. Alors là, évidemment, il est plus sur des arches. Enfin bon, il est disposé différemment. Donc ça, c'est la partie qui longe l'Arno. On va suivre le chemin. On va s'imaginer qu'on est le duc Cosimo. Donc, on vient du Palazzo Vecchio. Alors, donc, on passe là. On arrive donc au Ponte Vecchio. Donc là, il passe au-dessus des maisons et des ponts. Donc il a les arches, là c'est le pont lui-même, pour rejoindre donc l'Oltrarno. Alors, donc ça c'est... Mais arrivé à l'angle sur l'Oltrarno, il y a la tour des Martelli, qui est une vieille famille florentine, et qui se refuse à ce qu'elle soit détruite, et qui tient tête au grand-duc Cosimo, et qui refuse donc que le couloir passe d'une façon ou d'une autre dans leur palais, ou qu'on soit contraint de démolir leur tour. Et donc Cosimo, finalement, grand seigneur, ou qui sait qui il faut ménager, donc, et Vasari en arrive au fait que là, le corridor donc va contourner la tour des Martelli. Il fait il dépasse et il longe la tour, mais les Martelli ont tenu tête, ont eu raison. Et donc ensuite, il passe devant l'église Santa Felicita, où là il y a comme un petit oratoire. Le duc, le long du chemin, peut s'arrêter pour prier, écouter une messe, se recueillir, pour repartir jusqu'au Palais Pitti, où il arrive donc dans ce qu'on appelle les jardins aménagés, qui sont les jardins de Boboli. Et donc il y a la petite porte là, s'il veut sortir par les jardins, sinon il va directement dans son palais. Donc c'est effectivement une remarquable réalisation, qui fait qu'en même temps, on pourrait dire que Vasari se comporte un petit peu comme un urbaniste. Parce que ce travail qu'il fait aux offices, ce couloir de Vasari, finalement, il complète ce qu'on avait appelé la Via Brunelleschiana, la voie de Brunelleschi, qui était en fait un acte d'urbanisme important. En fait, oui, Brunelleschi, il avait conçu l'hôpital des Innocents avec toute une série d'arcades, justement, dont Vasari reprend l'idée avec le corridor. Il avait conçu donc la cathédrale, il avait conçu l'église Santo Spirito de l'autre côté de l'Arno, constituant donc un axe qui est aussi un axe de pouvoir, et c'est lui qui avait transformé le Palais Pitti pour lui donner l'ampleur connue. Et donc Vasari, il va aménager la Via dei Servi, qui rejoint donc l'hôpital des Innocents à la place de la cathédrale. Ça, j'en ai pas parlé, mais il faut le noter. Il va donc concevoir la galerie des offices, et on achève la route par le corridor Vasari. Donc là, on a l'impression qu'il y a un projet qui est quand même réfléchi, délibéré, de constituer l'ancien cardo de la ville romaine, cet axe nord-sud qui rejoint finalement et qui associe le pouvoir politique et le pouvoir religieux avec Sainte Marie de la Fleur, avec la Sainte Annunciata et l'Église des Innocents. Donc là, il y a effectivement un projet qui n'est pas à dédaigner. Et puis, donc, au Palazzo Vecchio, il décore Giorgio Vasari, donc les principales salles, dont d'ailleurs on va, qui vont recevoir en fait les noms des grands princes de la famille Médicis. On aura une salle Léon X, une salle Clément VII en particulier, et donc Vasari va travailler, parce qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Hein. Je vous ai dit qu'il a aussi des chantiers ouverts dans d'autres villes, donc il va travailler avec Bernardo di Monna Matea, Battista Botticelli, Stefano Veltroni, Marco da Faenza, donc des artistes qui sont des compléments de l'œuvre de Vasari. C'est regarder tout le travail qu'il va devoir faire. C'est tout ce qui est marqué ici en grisé, dont la plus vaste est évidemment la salle des 500, le studiolo le petit cabinet privé de François Ier, la salle du trésor, la salle d'audience, ouais, après les salles dédiées à Léon X, au fondateur des Médicis, comme l'ancien Laurent le Magnifique, Cosimo, donc le grand-duc, et le salon de Clément VII, et bien sûr, puisque c'était le père de Cosimo, le salon donc de Jean des Bandes Nere, Jean des Bandes Noires. Donc ça, c'est pour le premier étage. Donc vous voyez l'énorme travail qu'il doit réaliser. Et puis il y aura un second étage, vous voyez, où il va encore décorer une douzaine de salles qui sont maintenant appelées comme ça du fait souvent du tableau de la fresque qui est au plafond et qui semble l'élément les plus importants, donc celle des éléments des Sabines de Saturne. Donc voilà l'achèvement donc du Palazzo Vecchio, plus important étant donc cette salle des 500, si importante également symboliquement, puisque c'est dans cette salle qu'on avait demandé à Michel-Ange et à Léonard de Vinci de réaliser des fresques représentant les grandes victoires de Florence. Et Michel-Ange avait commencé donc une bataille de San Casciano et Léonard de Vinci une autre bataille. Donc ils se faisaient face et les deux artistes étaient en rivalité. Puis la fresque de Léonard s'est mise à couler parce qu'il avait voulu travailler trop vite avec des matériaux de mauvaise qualité. Michel-Ange n'a pas achevé la bataille de Cascina, enfin où il l'a un peu bâclé. Et donc Vasari va être chargé de refaire la décoration et de repeindre finalement des scènes, toujours dans le même thème, de victoire de Florence sur ses villes rivales. Bon, déjà, le plafond qu'il conçoit, donc ce genre de toiles marouflées qui sont mises entre du bois sculpté, donc le plafond est à la gloire, évidemment, de Côme. Vous voyez, le caisson central donc, nous présente Côme entouré, donc ici, d'habitude on met Zeus, on met Jupiter, on met Dieu, donc ici on met Côme, le grand-duc Côme, entouré donc des blasons des villes qui sont entrées dans le territoire, donc dans le grand-duché de Toscane. Et puis donc toutes sortes de scènes autour qui rappellent donc tous les hauts faits. Donc vous voyez là, il est couronné en plus, il porte cette couronne grand-ducale qui en fait finalement peut-être le chef d'État le plus important de l'Italie, après le pape, bien sûr, après le pontificat, peut-être même avant le roi de Naples à cette époque. Mais il n'y a plus de roi de Naples puisque c'est les Espagnols qui sont installés. Donc, voilà. Donc, tout est à l'apothéose donc, de Côme. Et donc, ces scènes de bataille, vous voyez où il y va carrément. Hein. C'est sûr qu'il a été aidé par beaucoup, comme on les a vus, pour représenter tous ces guerriers, tous ces combats, toute cette agitation, finalement, dans ici l'épisode de la guerre de Pise, et une autre scène, un petit peu même présentée comme s'il s'agissait d'une tapisserie qu'on aurait accrochée pour décorer. avec donc tout cet habile travail de scènes de premier plan, second plan, et puis après les paysages qui s'échelonnent vers le lointain, et donc qui s'inspire sans doute, bon, ça c'est encore une autre image, quoi, pour qu'on ait un petit peu une idée, qui s'inspire certainement de ce qu'avait fait Jules Romain, quand il avait achevé les salles de Raphaël, les fameuses stands, et Raphaël qui meurt en 1520, donc Giulio Romano va achever la salle de Constantin, qui représente donc la victoire de Constantin sur Maxence, bon, cette célèbre victoire, où là on a effectivement cette agitation, ces personnages qui s'entassent, qui s'entrecroisent sur terre et sur le fleuve, et présenté comme une tapisserie. Par contre, il peut. Alors, bon, il y a une légende qui veut que peut-être la fraise de Michel-Ange serait. Que Vasari n'aurait pas osé repeindre dessus et qu'il y aurait un petit espace entre la fresque de Vasari et celle de Michel-Ange et qu'il y aurait un petit trou à un endroit où on pourrait. Enfin bon, ça revient de façon récurrente de temps en temps dans les revues. Alors, d'un côté, il y a l'ostentation, et d'un autre côté, avec François de Médicis, Francesco, qui lui est un personnage plus effacé, plus discret, enfin bon, il va y avoir la création de ce studio qui a une entrée sur la salle des 500 et qui est une sorte de petite boîte, en fait, de coffret, de cassone, dans lequel le grand-duc François, dans la tradition qui commence à se développer des cabinets de curiosité, va rassembler ici, là aussi dans des armoires sur les portes desquelles sont représentées donc des scènes qui doivent faire deviner aux visiteurs ce qui est caché à l'intérieur, c'est-à-dire aussi bien des cornes de narval, enfin, ou de rhinocéros, que hein, toutes ces choses étranges, que des bijoux, que des diamants, des produits de la terre. Bon, donc il conçoit, vous voyez, cette petite pièce, ce cabinet secret, pas de lumière, pas d'ouverture, complètement intégré dans la construction du Palazzo Vecchio. Les portes sont à peine visibles hein, quand elles sont refermées, et où, avec d'autres artistes, donc Vasari va concevoir toute l'iconographie pour nous faire deviner, caché, enfin bon, hein, ce côté crypté, ce que les armoires renferment, avec l'idée que on va conserver dans ce cabinet de curiosité donc les raretés que la terre, la mer cachent en général dans leur flanc, et qui sont effectivement des choses mystérieuses, donc comme le fer bien sûr, mais qui permet en même temps aux hommes, quand ils les ont découvertes, justement d'être des créateurs. Bon, le minerai de fer, on peut après, et bien évidemment, quand on a inventé la fonderie, faire des canons, faire des armes, mais aussi faire d'autres belles choses. Donc Domenico Butti va représenter la fonderie, qui aurait été l'art détenu par les centaures, et qui les aurait transmis aux hommes. Donc vous voyez, dans toujours cette façon maniériste de représenter. Là. Au secours, au secours. Bon. Bah, je vais... Bon, alors... Donc, sinon, la voix, vous l'entendez ? Oui, mais je vais en casser combien, comme ça ?
C'est bon, là ? Parlez.
Oui,
allumé. C'est bon.
Bien. Vous m'entendez ? Oui. Donc, Domenico Butti, la fonderie. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer encore sorti du tréfonds de la terre ? Les mines de diamants, représentées par Maso da San Friano, donc le plus pur aussi de ces produits sortis des entrailles de la terre. L'invention de la poudre à feu, Bon, là aussi, donc c'est le feu de la terre, là encore, domestiqué, mis au service des hommes, bon, pour aussi bien défendre le territoire, comme s'était montré Cosimo Ier, un grand défenseur de son territoire, et donc ici transposé dans une sorte de palais, une fabrique donc de poudre, une poudrière. Et puis la forge de Vulcain, vous voyez, qui est réalisée par Vasari lui-même. Bon, alors maintenant, vous reconnaissez à peu près tous les tics de façon de travailler. La scène importante, à la limite, Vulcain en train de forger, elle est représentée tout au fond. Hein, bon, et au premier plan, des personnages montrent des objets sortis de la forge de Vulcain. Ça peut être en particulier le bouclier d'Achille. Vous vous souvenez quand Thétis va chercher un bouclier pour Achille au moment donc de la guerre de Troie, quand Achille décide de retourner au combat, parce que il y a aussi évidemment toute cette sculpture. Et Vasari donc réalise aussi cette histoire de Persée délivrant Andromède, et du sang de la Méduse et qui coule va naître le corail. Et évidemment, un des objets qu'on aimait bien avoir aussi dans ces cabinets de curiosité, c'était des branches de corail montées sur des pieds comme des beaux éléments d'orfèvrerie. Bon, donc, il y avait tout ce travail qui va être représenté dans le cabinet donc de François. Alors, en même temps, donc, finissons une petite promenade donc, dans les autres salles, vous voyez, dans les appartements de Léon X, une fresque qui nous montre Brunelleschi et Ghiberti qui présentent à Côme, donc cette fois c'est le vieux Côme, hein, c'est Côme l'ancien, la maquette de San Lorenzo qui est l'église des Médicis, qui est l'église paroissiale, puisqu'ils sont de ce quartier à l'origine, des marchands du quartier de San Lorenzo, et Côme représentant en père du peuple, mais également donc en marchand, en commerçant. Alors évidemment, puisque les Médicis ont donné des papes, bien sûr, François Ier rencontrant Léon X à Bologne, un événement également important qui est représenté, donc pour nous montrer partout la gloire des Médicis, avec bien sûr des scènes également allégoriques. Bon, Hercule qui étouffe les serpents, donc Hercule c'est aussi la préfiguration ou l'image du grand-duc Cosimo, bien sûr, nouvel Hercule, nouveau combattant qui réalise ses douze travaux qui sont en fait le triomphe de Florence. Avec cette scène, effectivement, là par contre, Salon de Jupiter, de la castration de Cronos, bon, dont le sens est peut-être plus caché et moins perceptible. Et puis, bon, alors tout ça, avec tout ça, évidemment, la vie de Brunel, la vie de Vasari, évidemment, se continue et se consume. Et une des dernières œuvres qu'il va réaliser à Florence, mais il ne travaille pas que là, mais comme je ne peux pas parler de tout en même temps, forcément, eh bien, finissons avec Florence, où il va décorer, enfin, il va prévoir le carton, parce que c'est de la voûte, enfin, de la coupole, donc du dôme de Brunelleschi, qui jusqu'alors, depuis Brunelleschi, était resté sans décoration. Et donc Vasari et Federico Zuccari, c'est lui qui va faire l'essentiel, donc vont concevoir la décoration du dôme donc de Brunelleschi, avec donc un jugement dernier qui est en même temps une sorte de main tendue avec le jugement dernier qu'on voyait quasiment en face dans le baptistère, et qui était réalisé au XIIIe siècle par des artistes dont Vasari disait encore qu'il peignait à la manière grecque. Et d'une certaine façon, il y a une sorte de raccourci. Le début de son livre, c'est les artistes du XIIIe qui peignent encore à la manière grecque, comme on les voit dans le baptistère, et de l'autre côté, pour terminer, évidemment, Vasari qui peint dans la tradition de Michel-Ange, c'est-à-dire dans cette réalisation de progrès du XIIIe siècle au XVIe siècle. Et puis il s'offre même une petite fantaisie dans ces dernières années, qui est en fait donc la Loggia del Pesce, c'est-à-dire une loge pour les marchands de poissons, qui est donc à découvrir dans Florence. Et qui là s'inspire effectivement de Brunelleschi et de, vous savez, justement la Loggia des Innocents, des places de l'Annunziata. Mais Cosimo a aussi une ville qu'il aime, c'est la ville de Pise, qu'il a récupérée, parce que Pise c'est évidemment l'ouverture sur la mer, c'est la possibilité à l'embouchure de l'Arno de Florence d'avoir une ouverture sur la mer, et c'était un vieux rêve de posséder finalement Pise, et donc, vous vous souvenez, hein, Léonard de Vinci qui avait imaginé de détourner l'Arno pour empoisonner la vie des Pisans. Donc Pise reconquise, donc Cosimo veut effectivement embellir sa nouvelle ville, sa ville préférée, dont ici sur ce bas-relief de Pierino da Vinci, on le voit, Pise restaurata, Pise restaurée, où le grand-duc est présenté comme celui qui a restauré, non pas reconquis, mais rendu à la ville ses meilleures conditions de vivre en faisant assécher tous les marais qui étaient autour de l'Arno, l'embouchure de l'Arno et autour de Pise, et qui rendaient la ville malsaine du fait des miasmes. Donc là, vous voyez, on voit Côme premier de Médicis qui chasse finalement d'une façon évidemment très, très métaphorique, où on voit des serpents, où on voit ces personnages un petit peu amphibies, où on voit ces personnages de satyres, hein, de personnages chasser avec l'aide de Minerve, bien sûr, et avec l'Arno. Là, c'est comme on représentait souvent les fleuves depuis les Romains, l'Arno qui est représenté finalement ici. Alors que va faire Vasari? Il va embellir Pise avec, là aussi, une conception nouvelle d'urbanisme qui est en fait la Piazza dei Cavalieri, la place donc des chevaliers. C'est en fait comme premier, Cosimo, a eu l'idée de créer un ordre de chevalerie, c'est-à-dire se comporter vraiment comme un grand roi, comme les rois de France avaient l'ordre du Saint-Esprit, comme les ou de Saint-Louis, comme Charles Quint avait la toison d'or, et en même temps un ordre de chevalerie qui rappellerait la lutte des chevaliers comme les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ou comme les chevaliers qui vont devenir les chevaliers de Malte. Parce qu'il n'a pas oublié non plus que prince chrétien, théoriquement, il devrait être aussi un prince qui devrait mener la guerre contre les musulmans. Hein. Cette idée de croisade, de délivrer Jérusalem, elle traîne toujours dans les esprits. On la ressort de temps en temps. On sait très bien qu'on ne la fera plus, cette croisade. Sauf quand même qu'il y aura la bataille de Lépante en 1571, qui est une dernière parade, on peut dire, face aux Turcs. Donc il avait créé l'ordre des chevaliers de Saint-Étienne. Donc ils vont siéger à Pise, et vous voyez, donc Vasari va travailler sur tout l'aménagement d'une place qui avait effectivement un format irrégulier, parce que c'était une place médiévale. Hein, donc il travaille sur le tissu urbain traditionnel ici, hein, c'est pas comme pour le musée des Offices. Et donc il va concevoir cette façade donc, qui est légèrement arrondie, reprenant en fait les vieux bâtiments, la disposition en fait des vieux bâtiments du Moyen-Âge, pour donc recevoir cet ordre des chevaliers. En même temps d'ailleurs, Cosimo avait rétabli l'université de Pise, et il a voulu aussi en faire donc une ville universitaire, et ça c'est important, et vous savez que dans ces bâtiments sont installés maintenant ce qui correspond à l'école normale supérieure d'Italie, comme des correspondants d'ailleurs avec l'ENS française. Donc l'université y a également rétabli, en même temps il y a créé un jardin botanique, il a favorisé l'artisanat, et donc il a créé cet ordre et cette décoration de ce grand palais, donc ce grand palais où bien sûr devant l'escalier monumental, donc on place la statue de Cosimo Ier, et où Vasari imagine une décoration de sgraffito assez originale, c'est-à-dire en fait la pierre qui est incisée et qui est ensuite peinte, comme on travaillait sur les intailles, avec bien sûr des allusions au rôle de porc que l'on va redonner finalement à Pise. Vous voyez ici une représentation de Neptune en particulier. Donc ça, c'est l'immense palais des Cavalieri. Et puis donc en face, l'église où l'ordre va se réunir, donc va fêter les grandes fêtes, va y tenir ses chapitres finalement, où on voit ce qu'il avait choisi, vous voyez, qui est proche de l'ordre de Malte. Il portait donc sorte de chasuble au moment des grandes cérémonies, ou de grands manteaux marqués donc de cette croix. Et donc sous le vocable de Saint-Étienne. Et puis Vasari n'oublie pas sa ville natale, Arezzo, où il y a encore sa famille. Et pour sa ville natale, il veut également donc créer un bel ensemble, là aussi urbanistique, sur la place la plus importante, mais qui est une place assez irrégulière, là encore une place médiévale, vous savez, où chacun construisait un peu à sa façon, et où il a voulu lui donner une unité. Si vous l'imaginez, c'est sur cette place qu'on donne toujours ça en référence. Maintenant, on se demande comment on aurait fait s'il n'y avait pas eu ce film, mais où il y a les premières scènes de La vie est belle, vous savez, avec Benigni, là, il fait du vélo avec sa femme là, sur cette place d'Arezzo, avec l'église donc, qui est à votre... ici, de ce côté-là. Bon, donc... Il reprend effectivement le modèle de la galerie Vasari, bien sûr. Hein, vous reconnaissez les grandes arcades qui font loggia, sous lesquelles on peut se promener, et en même temps le développement horizontal de la galerie des Offices. Donc il embellit sa ville, il en fait une sorte de petite Florence d'une certaine façon. Il en est fier, c'est un arétin. Il en est fier. Vous retrouvez les fenêtres du palais de la galerie des Offices, les arcades du corridoio, du corridor, pour en serrer finalement sur... c'est pas achevé, l'autre côté n'est pas terminé, avec donc plus tard au XIXe siècle, vous voyez, on a mis ce que j'avais mis en frontispice, évidemment un portrait, un buste de Vasari, l'enfant de la cité. Et à Arezzo, donc, il a également, bien sûr, il s'est installé, il a aménagé donc sa maison qu'on peut visiter maintenant, qui est une sorte de musée, où là encore la décoration est intéressante, bien sûr. Déjà, bon, le jardin, bon, évidemment, c'est un jardin fait en 2008, mais on peut imaginer finalement un peu ce type de jardin finalement, hein, ces arcades là, on les voit dans le tableau de Mantegna quand les vices sont chassés par les vertus. Bon, bien sûr, les décorateurs ont repris une tradition médiévale, et avec donc une grande salle d'accueil qu'on appelle la salle del Camino, la salle donc de la cheminée, où il y a une grande cheminée, et où en fait Vasari se comporte un peu comme un prince collectionneur. Il avait conçu la tribune des Offices pour les collections des ducs, et là il imagine que lui aussi il a des pièces antiques, ou qu'il va représenter en trompe-l'œil, ou qu'il va faire reproduire en stuc, hein, la Vénus du Belvédère, qui fait partie des collections donc du grand-duc Cosimo. Donc c'est en même temps il se rattache toujours à ses Médicis. Dans son grand salon, il y a la représentation de la Vénus du Belvédère, qui est donc une sculpture hellénistique et qui fait partie donc des collections du Grand-Duc. Et puis, donc toujours dans cette Salone del Camino, donc là, il n'a pas de représentation, mais il peint la fameuse Artemis, l'Artemis d'Éphèse, vous savez, avec tous ces l'Artemis nourrissante. Donc là, il n'en a pas une représentation en stuc, mais il en a une représentation, puisqu'elle est avec... D'ailleurs, c'est une version qui a été refaite, puisqu'on lui a remis une tête d'impératrice. La tête, c'est la tête d'une impératrice romaine. Donc c'est une copie romaine de l'Artemis d'Éphèse, avec donc la tête de, ça doit être Livy, qu'on a remise là, vous voyez. Bon. Donc, cette décoration avec au plafond, vous voyez, on va trouver évidemment les caissons, tout ce qu'il a fait, réduit évidemment pour lui-même, dans cette belle demeure, avec des grandes allégories, donc allégories maniéristes, allégories qui ont évidemment un petit fond de souvenir de Michel-Ange, hein, des prophétesses, hein, ces grandes femmes vues un peu solides, vues un peu de sotto in su, de dessous en dessus. Alors bon, ici, dans cette autre salle, la salle d'Abraham, donc Dieu bénissant Abraham, là vous le reconnaissez tout de suite, ce Dieu bénissant Abraham, c'est le Dieu qui parcourt à toute vitesse pour créer le monde, le plafond de la chapelle Sixtine. Hein. Alors, quand on prend la Sixtine, quand on prend Michel-Ange, hein, vous le voyez, il va de là à là, enfin, vous voyez, donc dans cette... geste de... Alors, il est là. Bon, et on le retrouve donc dans la maison de Vasari. Bon, mais c'est vrai qu'on ne fréquente pas non plus tous les grands et tout, et qu'on ne les admire pas sans que sa propre peinture en soit sensibilisée. Donc, petite promenade dans la maison de Vasari. Peut-être son épouse... Niccolò Zabacci, on pense qu'il l'a également représenté dans le Salon des Muses. Alors on en est à peu près sûr, hein. C'est sa maison familiale. C'est le lieu où, après aller et venir, il peut se reposer, retrouver un autre monde. Donc, en même temps, pour Arezzo, il peint aussi des œuvres, parce qu'on lui demande, hein, bon, que je signale comme ça, bon, qui ne sont pas les plus importantes, les plus fondamentales. Et puis, le voilà parti en 1572-73, donc toujours en étant attaché au duc, à Rome, où le pape Paul III Farnèse lui demande de représenter le massacre de la Saint-Barthélemy. Et là, c'est une œuvre assez méconnue et assez stupéfiante. Donc, il a eu lieu en août 1572. Pour l'Église, évidemment, l'Église de la Contre-Réforme, c'est un triomphe, comme il n'y en a pas deux possibles. Et donc, Vasari va réaliser dans la Sala Regia, donc du Vatican, des fresques qui vont représenter donc le massacre de la Saint-Barthélemy, comme on le voit dans les gravures. Vous voyez ici l'amiral de Coligny qui est jeté par la fenêtre dans la cour de sa maison. Cette autre scène donc, qui représente donc un autre élément du massacre. Et j'aime bien ce que dit Stendhal, parce que dans ses promenades dans Rome, il dit « Ainsi est-il un lieu en Europe où l'assassinat est publiquement honoré ?» Donc là, il y a une espèce de haut-le-cœur devant cette représentation. Alors, évidemment, on ne va pas dire que ça nuit à l'image de Vasari, que dans l'époque, ça allait dans la normalité d'un bon chrétien dans l'époque de la contre-réforme, et que c'était une commande, et qu'il répondait aussi à toutes les commandes. Voici donc la troisième fresque, qui représente donc Charles IX devant le Parlement. donc avec quasiment des portraits des personnages, et semblant effectivement, laissant croire d'ailleurs ici, si on en croit cette image, que Charles IX a joué effectivement un rôle décisionnel important dans le massacre, plus que sa mère Catherine de Médicis. Alors, il y a peut-être aussi ce fait-là qu'il a pu accepter cela, parce que c'est sous le règne d'une Médicis, de Catherine de Médicis, qui est la tante des ducs, enfin, ou la cousine, à l'époque où on est. Il faut aussi replacer cela, peut-être aussi d'une certaine façon, glorifier les Médicis d'une autre façon. Donc pendant qu'il est à Rome, il travaille aussi donc au palais de la chancellerie, pour Paul III Farnèse, où on retrouve là, vous voyez, ces tiques traditionnelles de peintres maniéristes, ces escaliers déformés où la lumière joue pour transformer les formes, c'est le temps qui est comme ça, ce vieillard antique alangui, les femmes maniéristes qui nous tournent le dos. Et puis, ce qui est un peu intéressant aussi, c'est, par contre là c'est un témoignage, c'est de voir monter la nouvelle basilique Saint-Pierre qui est en train d'être construite sur, évidemment on englobe la vieille en attendant, sur les ruines de la vieille basilique paléo-chrétienne. Là on a aussi un témoignage en fait même si c'est pas Paul III qu'on avait décidé le début, le commencement. Mais ça nous montre un petit peu le décor en fait de cette Rome en reconstruction. Bon, là l'image n'est pas très belle, mais vous voyez, on retrouve, c'est un peu le jeu, oui, on retrouve le même jeu des escaliers quasiment impraticables, bon, et qui se répondent les uns convexes, les autres concaves. Enfin bon, tout ce jeu plaisant de forme, de perspective. Bon, alors quelques autres œuvres, montées au calvaire, donc pour Florence. Bon, mais vous voyez comment, en même temps, il y a ce travail très, très important sur les visages, mais aussi cette habileté à associer les personnages. Bon, ici, la Vierge qui est encadrée, soutenue par Saint Jean d'un côté, qui a ce visage presque léonardesque finalement, et Marie-Madeleine, et puis Véronique. Donc dans tout cet entassement de personnages, on retrouve les principaux acteurs, et jamais mis n'importe comment. Ils semblent incrustés les uns dans les autres, même si à la vision générale, on a l'idée un petit peu d'un fouillis. Hein. Bon, ça c'est vrai aussi. Bon, mais après, on voit tout ce travail de composition de Vasari, cette habileté à dessiner, parce qu'en fait, Vasari, dans son histoire, pour lui, c'est le dessin qui doit l'emporter. S'il aime pas Titien, enfin, s'il reconnaît que c'est un grand, mais Titien, c'est pas un dessinateur, c'est un peintre. Il s'occupe trop de la couleur et pas assez du dessin. Tout doit être dans le dessin. Donc, dernière image de Vasari, qui serait ici plutôt sculpteur, mais c'est rare, il n'y a pas d'œuvre de sculpteur, c'est évidemment le monument funéraire de Michel-Ange. Alors, pour parachever le portrait, il faut quand même parler de l'historien, puisque c'est par ce biais qu'on le connaît, et que c'est un petit peu par ce côté que j'avais voulu le présenter autrement. Donc, Levi de più eccellenti pittori, scultori e architettori. Alors, il faut déjà se poser la question, pourquoi il les met dans cet ordre, bien sûr, alors que les écrivains antiques auraient mis l'architecture d'abord, hein, comme grand art, et puis la sculpture. Donc, une première édition d'Evi en 1550, une seconde en 1558, et pour la première édition, on compte à peu près 187 biographies. Donc, 187 personnages sont présentés, plus une introduction, évidemment, plus classique, là où il parle de l'architecture, de la sculpture et de la peinture. Bon, là, il s'inscrit dans une tradition des gens comme Cennino Cennini ou d'autres, ou Alberti. Mais le côté nouveau, le côté novateur, c'est effectivement des biographies d'artistes. et qui sont en même temps des catalogues de leurs œuvres et qui sont en même temps une analyse finalement de leurs œuvres et qui s'inscrit en même temps dans une idée de progrès et d'évolution de la peinture. Donc il y a donc 187 biographies, mais dans l'édition de 1568, il rajoute encore des personnages, puisque là il va s'intéresser finalement aux artistes encore vivants, dont sa propre biographie. Donc voilà le frontispice donc de son livre, donc entre avec donc une oui ça genre dans celui-là on va pas le voir donc au début de chaque portrait de peintre donc il y a un portrait gravé dont il dit que ce sont souvent à partir de sa collection de gravures. Il avait une énorme collection de dessins qui après d'ailleurs ses héritiers ont éparpillé, ont découpé, ont vendu, enfin bon, alors on en a retrouvé après, mais donc tous ces cartons à dessins ont été quand même quelque peu éparpillés. Donc en fait chaque vie finalement a sa propre structure, mais ils ont toutes la même structure. Finalement, elles commencent toutes par une introduction qui présente le personnage, son importance en particulier, souvent un petit peu moralisatrice. Hein. C'est parfois des personnages qui étaient pauvres et qui ont été reconnus par un artiste. Hein. Il nous parle de Giotto qui était un petit berger et puis qui sur une pierre avait dessiné un personnage et puis est passé Cimabue et donc s'est intéressé à son œuvre. On a plusieurs peintres dont la vie comme ça et commence par cette façon donc de mettre en valeur les qualités. Donc il y a une petite introduction généralement moralisatrice et qui permet après de connaître l'artiste et son caractère. Et puis donc, bien sûr, il étudie les principales œuvres, et puis il nous donne aussi des éléments de leur vie, du fonctionnement de l'atelier, c'est ça qui est intéressant, donc de la bottega, de la boutique, comment ça fonctionnait. Et tout ça conçu finalement dans une sorte de logique. Vasari distingue en fait trois périodes dans l'art, depuis le Moyen-Âge. À partir de 1260 jusqu'à 1400, pour lui, c'est le réveil. Donc les artistes qui vont sortir de cette influence des Grecs, des Byzantins. Et ça commencera avec Giotto et Cimabue en peinture, les Pisano en sculpture et Arnolfo di Cambio en architecture. Il prend ces trois ou quatre artistes comme point de départ. Un architecte, deux frères sculpteurs, les Pisani, et deux peintres, Giotto et Cimabue. Donc pour lui, c'est à partir d'eux que va commencer donc cette évolution. À partir de, pour lui, les années 15e siècle, 1400, 1500, c'est la maturité qui va conduire au génie. Et à partir de 1500, c'est l'apothéose des maîtres, c'est-à-dire Léonard de Vinci, mais surtout Raphaël et surtout Michel-Ange. Bien sûr, tout va converger. Alors le problème, c'est qu'il y a le Titien qui est contemporain de Michel-Ange, qui est aussi un grand artiste, dont il reconnaît lui-même, bien sûr, qu'il a d'éminentes qualités, mais tout de même pas au niveau de... Alors, mais en fait... Tous ces grands artistes, tous ceux qui ont fait avancer la peinture, selon Vasari, qui l'ont fait progresser, ce sont des Toscans. Incontestablement, Titien est vénitien, il ne peut pas avoir atteint. Donc c'est Vasari, c'est un, comment on dirait, il est toscan avant tout. On a parlé de campanilisme de Vasari, tout tourne autour du campanile de Florence en fait et du dôme de Brunelleschi et en fait de toscanisme si on veut. Et d'ailleurs il le dit lui-même dans la vie du Pérugin, il donne trois raisons pour que les Florentins, il va même lui qui est d'Arezzo reconnaître que les Florentins sont encore au-dessus, sont les meilleurs. Il y a trois raisons, il le dit dans la vie du Pérugin. Les artistes y naissent naturellement libres, donc une liberté de créer, une liberté d'inventer, qu'on ne trouve pas chez les autres. Mais ils naissent, hein, dès la naissance. Ils sont toscans, donc ils naissent forcément libres. Il faut, pour réussir à Florence, être industrieux si on veut vivre et réussir à Florence. Donc c'est aussi des artistes qui ont prouvé leur capacité, parce que dans Florence, rien n'est laissé de côté. Enfin, voilà, il faut travailler, prouver qu'on est des maîtres. Donc ils naissent d'une certaine façon, ils sont industrieux par nécessité. Et puis, si on voulait faire une sorte de géographie à la Montesquieu, pour lui, il y a à Florence un air qui est finalement un'aria, une certaine qualité de l'air faite de sottilezza, de subtilité, de finesse, de ténuité qu'on ne va pas trouver ailleurs. C'est un peu en Toscane, mais pas au-delà finalement. Ou sauf si des artistes toscans vont travailler. Donc il y a, si vous voulez, cette explication finale de ces progrès qui, pour lui, ne pourront pas dépasser de toute façon ceux de Michel-Ange. Et puis, en fait, il faut lire Vasari parce que c'est un homme de lettres, en fait, c'est un écrivain. Il a une façon de raconter, alors, certaines vies dont il ne sait pas grand-chose, c'est un peu une nomenclature, mais il y a d'autres vies plus détaillées, où il a rencontré des gens comme Rousseau, qu'il a rencontré, et où il nous place de véritables petits contes, à la façon de Boccace, ou à la façon de Sacchetti, qui étaient les grands conteurs à la mode à cette époque. Je vais vous lire quand même une ou deux de ces petites histoires, parce qu'elles sont, elles sont plaisantes, elles sont pleines d'humour, si vous voulez. Dans la vie de Liberale da Verona, donc les dernières vies, il nous parle d'un artiste qui voulait représenter un Saint-Sébastien à la demande d'un seigneur. Puis il trouve que le Saint-Sébastien, il va vraiment pas. Le marquis avait l'habitude d'aller le voir travailler, donc Liberale da Verona. Il vint un jour pendant qu'il exécutait cet ouvrage. Francesco lui aurait-il dit, pour faire ce saint, il faut prendre un beau modèle. Ah, j'ai répondu Francesco, c'est un autre peintre qui travaillait, mais c'est dans la vie de Liberale, un supporte portefeuille que j'attache à mon idée pour obtenir une pose naturelle. Donc il s'agit de faire un Saint-Sébastien. Le marquis répartit, pour les membres de ton saint manquent de vérité. On ne voit pas qu'ils sont étirés par force. Il n'exprime pas la terreur que doit éprouver, j'imagine, un homme garrotté et percé de flèches. Même si tu veux, je te montrerai, si tu veux, ce que tu dois faire pour obtenir un personnage accompli. Je t'en prie, Seigneur. Le marquis reprit. Quand tu auras ici ton portefeuille attaché, fais-moi appeler et je te montrerai ce que tu dois faire. Quand le jour arriva, le jour suivant, Francesco eut attaché son modèle à sa manière, il fit appeler secrètement le marquis, tout en ne sachant pas ce qu'il avait l'intention de faire. Le marquis, jaillissant d'une chambre absolument en fureur, une arbalète chargée à la main, se précipita en direction du portefeuille en hurlant « Traître, tu es mort! Je t'ai enfin attrapé !» et autres paroles semblables. Entendant cela, le misérable portefeuille, se tenant pour mort et voulant rompre les cordes qui l'attachaient, aggrava leur pression. Complètement affolé, il eut l'image même d'un homme qui s'attendait à être percé de flèches. Son visage trahissait la terreur et ses membres étirés et tordus dans un désir éperdu de fuite, l'horreur et la mort. Le marquis dit alors à Francesco, « Le voilà arrangé comme il faut, c'est à toi de faire le reste. » Le peintre profita donc de la leçon et fit le personnage le plus parfait qu'on puisse imaginer. Donc oui, c'est, dans ces vies, il y a toutes ces petites scènes finalement qui nous rendent vivants le travail de l'atelier, la vie de... et qui sont comme des petits... finalement, d'une certaine façon, des petits contes. Il y a aussi celui de la guenon de Rosso Florentino, qui avait une petite guenon qui allait voler des fruits chez les moines parce qu'ils n'avaient pas suffisamment à manger. Donc elle avait été dressée et elle allait voler les fruits chez les moines. Et évidemment, la petite guenon a été prise. Donc il arriva, donc il parle de cet animal, il arriva que cet animal s'est pris d'un de ses apprentis nommé Battistino, un très joli garçon. Donc le singe est amoureux du garçon. Le singe devinait toutes ses intentions aux signes qu'il lui faisait. Or, il y avait par derrière, du côté des chambres, donnant sur le jardin des moines, une tonnelle chargée de gros raisins de Saint-Colomban, appartenant au frère Portier. Les jeunes apprentis envoyaient le singe en bas jusqu'à la treille, qui était assez loin de leur fenêtre, et remontaient l'animal, les mains pleines de grappes à l'aide de cordes. Enfin, vous voyez, en plus, ces blagues de jeunes garçons qui ont 14, 15 ans, qui sont là pour broyer les couleurs, et puis qui sont prêts, et puis, bon, puis les raisins, donc il remontait les mains pleines de... Alors, le portier voyait sa vigne se dégarnir et ne savait pas ce qui en était responsable. Croyant que c'était des rats, il fit le guet. Quand il vit descendre le singe de Rosso, la colère s'empara de lui, il empoigna une perche pour lui donner une correction et se jeta sur lui à bras raccourcis. Le singe, voyant que s'il montait, les coups allaient pleuvoir et que s'il restait sur place, c'était pareil, commença à sautiller partout et à défoncer la tonnelle. Ayant pris le courage de se jeter sur le moine, des deux mains, il saisit les dernières traverses qui maintenaient la tonnelle. Pendant ce temps, le moine bataillait avec sa perche. Le singe, pris de panique, donna une secousse si forte qu'il fit sortir de leur trou les cannes et les perches. Tout s'écroula, singe et tonnelle, sur le dos du moine qui se mit à crier au secours. Battistino et les autres tirèrent la corde et le singe, sain et sauf, retrouva la chambre. Le portier, une fois dépêtré et monté sur la terrasse, se mit à les invectiver de tous les noms. Furieux et plein de rage, il se rendit auprès du tribunal des huit, juridiction fort redoutée à Florence, où il déposa plainte. Rosso fut convoqué et le singe, par plaisanterie, fut condamné à porter un poids afin de ne plus pouvoir sauter sur les tonnelles comme avant. Mais Rosso lui construisit alors un rouleau avec une chaîne pour qu'il pût se déplacer dans la maison sans toutefois pouvoir sauter chez les autres. Se voyant condamné à ce supplice, le singe sembla deviner que le moine en était responsable. Tous les jours, il s'entraînait à sautiller en tenant son poids dans les mains, et ainsi, par petites étapes, en le déposant souvent, il parvint à ses fins. Un jour où il était resté seul à la maison, il sauta avec précaution de toit en toit, à l'heure où le portier chantait les vêpres, et arriva jusqu'à celui de sa chambre. Là, il lâcha le poids et se livra pendant une demi-heure à un tel balai amoureux qu'il ne restera rien d'intact, ni tuile, ni contrejoint. Il rentra chez lui et les plaintes du portier plurent pendant 3 jours. Rosso s'en alla à Rome, son travail terminé, en emmenant Battistino et le singe. Donc vous voyez, ça c'est du Sacchetti, c'est des petites scènes finalement. Alors j'avais mis Buffalmacco, mais je ne veux pas en lire plus. Monsieur Buffalmacco et ses copains, ils en avaient assez que leur maître les faisait lever à 3 heures du matin pour travailler. Donc pour lui faire peur, ils avaient attrapé des gros cancrelats. Ils avaient mis des petites lanternes, des petites bougies sur les cancrelats et ils les avaient fait courir dans la chambre du maître qui affalait se sauver, ne pensait plus à réveiller les jeunes. Donc il y a tout, si vous voulez, Vasari, c'est aussi ça, c'est toute cette vie, vous voyez, qui revient, qui ressort. Alors oui, le voilà, parce que je ne vous ai pas encore montré son portrait. Donc finalement, Vasari, comme je l'ai dit, on le croyait infatigable, mais finalement, il s'est éteint, épuisé, le 27 juin 1574, donc 10 ans après Michel-Ange. Et donc, en fait, il a rempli son siècle, quasiment, présent sur tous les chantiers, impatient de servir et de plaire, incessamment, il était curieux, il était attirant, il était agaçant, il était humble d'un certain côté, il était trop sûr de lui de l'autre. C'était un parfait courtisan, un bon mari et un bon père. Il était inventif et conservateur, historien partial, écrivain hors pair et toscan et florentin avant tout. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.